Bosco Douimana.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est le moment du journal parlé en français. Voici le sommaire. La journaliste Sandra Muhoza du journal en ligne, La Nova, écope de 4 ans de prison ferme et de 200 000 francs burundais d'amende. Ainsi en a décidé le tribunal de grande instance de Ngozi. Des habitants du quartier Gatunguru de la zone Rubirizi vivent la peur au ventre à cause des câbles électriques qui risquent de leur causer des accidents mortels. Cela fait 2 ans qu'ils ont donné l'alerte, mais sans réaction de la part de l'autorité concernée. Reportage à suivre. Et l'obligation de mettre en place des seaux d'eau et du savon à l'entrée des lieux de rassemblement très fréquentés en Ngozi n'est pas largement suivie. Notre correspondant nous le dira. Voilà pour le sommaire.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Le tribunal de grande instance de Ngozi vient de condamner la journaliste Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova à 4 ans de prison et au versement de 200 000 francs d'amende. Lors de l'audience publique du 19 décembre dernier, le procureur de la République Ngozi avait requis à cette journaliste 12 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs burundais. Sandra Muhoza a été arrêtée le 18 avril 2024 à Ngozi, puis conduite à Bujumbura. Après plus d'une année d'incarcération à Bujumbura, la cour d'appel de Mukaza s'est déclarée incompétente pour juger ce dossier et l'a renvoyée à Ngozi où la supposée infraction aurait été commise. Les infractions d'aversion raciale et d'atteinte à l'intégrité du territoire national qui pèsent sur elle sont basées sur des échanges sur WhatsApp avec ses confrères. On reste en Ngozi où l'obligation de mettre en place des seaux d'eau et du savon à l'entrée des infrastructures très fréquentées n'est pas jusqu'à présent très respectée, même au marché central d'Ngozi. Certains disent ne pas être au courant de cette mesure, d'autres expliquent que l'eau manque dans pas mal de ménages, et cela depuis longtemps. Les habitants d'Ngozi demandent d'être alimentés en eau en vue du respect de cette mesure du gouverneur de la province Butanyerera, une mesure qui malgré tout est en vigueur dans certains endroits comme à l'hôpital de troisième référence d'Ngozi, comme nous le rapporte notre correspondant Apollinaire Moussagara.
Le vendredi passé, le gouverneur de la province Mutanyerera avait demandé aux tenants des débits des boissons, restaurants, écoles, marchés et autres lieux de rassemblement public que soit mise en place de l'eau et savon à l'entrée en vue de faire la propreté, la préoccupation de la population avant qu'il y ait des malades. Pourtant, ce mercredi, il n'y avait pas d'eau et savon à pas mal de banques, sauf pour quelques-unes comme la BND. Même situation de la non-exécution chez les débits des boissons, restaurants, écoles fondamentales sans internat, pharmacie et autres. À l'hôpital de troisième référence d'Ngozi se trouve une installation d'eau permanente à l'entrée permettant à tout individu de se laver les mains. Certains des concernés disent ne pas être au courant de cette mesure, arguant que son application est rigoureuse lors de la survenue d'une maladie contagieuse liée au manque d'hygiène. D'autres avancent la pénurie d'eau qui lasse plus d'un en ville d'Ngozi. Certains ménages viennent de passer 3 à 5 mois sans aucune goutte d'eau. Ils demandent par conséquent aux autorités habilitées de faire au moins un approvisionnement à tour de rôle dans les quartiers pour qu'il n'y ait plus de ménages oubliés. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro.
Des câbles électriques qui risquent de tomber inquiètent les habitants du quartier Gatunguru de la zone Rubirizi. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters rapportent que ces fils sont portés par des poteaux électriques vétustes. Ils affirment que cela fait déjà 2 ans qu'ils ont alerté l'autorité compétente pour que ces poteaux soient remplacés pour la protection de la population, mais que la réaction se fait toujours attendre. Reportage Jean-Marie Mayonga.
Ces habitants expriment leurs inquiétudes concernant les poteaux transportant les fils électriques de la régie des eaux qui sont vétustes. Certains de ces fils passent au-dessus des clôtures des habitations, tandis que d'autres traversent les rues fréquentées par les passants, ce qui pourrait entraîner des accidents. Ils signalent avoir déjà informé les autorités locales locales ainsi que les responsables de la régie des eaux, mais aucune intervention n'a encore été réalisée.
Si ces câbles restent sur cette maison, cela signifie qu'à tout moment, nos enfants peuvent être touchés. Nous l'avons signalé à plusieurs reprises depuis près de 2 ans en demandant les remplacements, mais rien n'a été fait.
Ces fils électriques sont restés ainsi depuis près de 10 ans. Celui-ci passe dans la parcelle et peut causer des dégâts à tout moment. À Gatunguru, on trouve plusieurs endroits où des poteaux sont tombés et où les fils restent suspendus dans l'air.
Il demande aux autorités concernées, notamment à la régie des eaux, de tout mettre en œuvre pour remplacer ces poteaux afin de protéger la population.
Les autorités concernées, notamment la régie des eaux, peuvent nous aider en nous fournissant un nombre suffisant de poteaux car nous avons beaucoup de maisons. Actuellement, 5 maisons devraient partager un poteau alors qu'aujourd'hui, un seul poteau est utilisé par plus de 10 maisons avec un seul câble électrique.
Josephine Chiza, chef des 10 maisons dans le quartier Gatunguru, confirme cette situation et demande à la régie des eaux de remplacer les poteaux en bois par des poteaux métalliques. Des informations fournies par les autorités collinaires de Gatunguru précisent que 59 poteaux recensés sont déjà tombés.
La direction de la régie des eaux contactée pour réaction a promis de communiquer sur cette situation dans nos éditions de ce jeudi 15 janvier.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Le Burundi ne pourra pas réaliser sa vision d'un pays émergent et développé si les Burundais ne changent pas de comportement. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, l'a dit ce mercredi lors de la présentation d'un ouvrage collectif écrit par des Burundais sous le titre Une nation en marche qui incarne 5 piliers du développement durable. Le président de la République a dénoncé le fait que certains fonctionnaires de l'État fainéants qui n'attendent que le salaire de la fin du mois, ainsi que ceux-là qui ne font que demander s'il sera candidat ou pas à la prochaine présidentielle au lieu de travailler. On fait le point avec Évariste Nzikobanyanga.
Selon le président de l'Olicom, un des co-auteurs de cet ouvrage, dont le contenu appelle les Burundais à changer de comportement pour que leur pays soit émergent en 2040 et développé en 2060, Gabriel Ussiri trouve qu'il faut cesser avec les discours et s'atteler au travail.
Dans son livre, on parle de 3 documents importants. La vision 2040-2060. On parle de la stratégie nationale anticorruption. On parle aussi du dernier document, le document pour la stabilisation macroéconomique. Les documents sont là. Ces documents, aussi longtemps, tout à l'heure, Shira Mungiro, Hanyumango, avec évaluation, on va rester juste au niveau des discours.
Même son de cloche avec Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République. Dans ses commentaires sur le contenu de cet ouvrage, il a émis des recommandations qui pourraient aider à la mise en application le contenu de cet ouvrage qui oriente le Burundi vers un développement durable, parmi lesquels la cessation des chicaneries politiques.
Est-ce que les élites burundaises aujourd'hui sont prêtes à l'annoncer aux querelles insupportables aujourd'hui, qu'on trouve dans les partis politiques, qu'on trouve dans le monde politique, qu'on trouve dans le monde institutionnel. Parce que on ne réussira jamais la lutte contre la corruption si on est toujours dans les querelles politiques.
Le chef de l'État, qui a rehaussé de sa présence à la présentation de l'ouvrage intitulé « Une nation en marche », ayant expliqué que le Burundi n'a pas avancé suite à la paresse des fonctionnaires de l'État qui n'attendent que le salaire mensuel sans toutefois travailler. Parmi les exemples, le président Évariste Ndayishimiye citait les gens qui ne veulent que savoir s'il va se porter candidat à la présidentielle prochaine au lieu de s'atteler au travail.
C'est pour cela qu'il y en a même qui ne veulent pas conseiller le président de la République en disant « Non, il faut qu'il échoue pour que moi aussi j'ai de la place. » Oublie que si j'échoue, C'est le pays qui échoue. Vous entendrez qui diront, non, on ne veut pas qu'il revienne en 2027. Moi, je vais dire, est-ce que 2027, je serai là? Vous pensez que je suis immortel? Pour décider sur moi en 2027, il faut d'abord penser que je suis homme qui peut mourir aujourd'hui. Plutôt, il faut penser, s'il n'est pas là aujourd'hui, qui va le remplacer? Mais on perd du temps en pensant qu'il ne soit pas là seulement. C'est cela qui freine notre développement.
L'auteur principal de cet ouvrage intitulé « Une nation en marche » est Docteur Benjamin Ndagijimana, tandis que Gabriel Roussiri, président de l'Olucom, Alain Dikoumana, ministre des Finances, Docteur Janvier Ndirahisha et Docteur Pacifique Manrakiza sont co-auteurs.
Merci Évariste. La malnutrition demeure un problème de santé publique dans notre pays, tel que le déclare le directeur général du nouvel Institut supérieur de nutrition et paramédical de Simba à Gitega. Il se base sur l'enquête de santé effectuée en 2016 et 2017 et qui a montré que 56% des enfants souffraient de malnutrition chronique. Lors des cérémonies de son inauguration ce mardi à Gitega, il a promis que cet institut participera à la réduction sensible de la malnutrition. Et de son côté, l'administrateur de la commune de Gitega a formulé le vœu que cet institut consacre beaucoup d'efforts à la recherche dans ce domaine. Gérard Nibigira.
Le directeur général de l'Institut supérieur de nutrition et paramédical de Simba, en commune et province de Gitega, Deo Harimenshi, indique que la malnutrition demeure un problème de santé publique, vu le rapport des enquêtes de santé des années 2017 qui montre que 56% des enfants burundais souffraient de la malnutrition chronique.
D'après l'enquête de santé qui a été effectuée en 2016 et 2017, on a trouvé que 56% des enfants souffraient de la malnutrition chronique, dont 31% sous sa forme modérée et 25% sous sa forme sévère. Donc, ça dit que la malnutrition demeure un problème de santé publique dans notre pays.
Il espère alors que cet institut aidera à combattre ce problème de santé publique.
L'institut, à travers la formation, les Royado participeront efficacement à la réduction sensible de ce problème de santé publique par une éducation nutritionnelle communautaire basée sur la consommation d'une alimentation équilibrée en utilisant des produits locaux, sans oublier une éducation visant un changement de comportement et de mentalité.
De son côté, l'administrateur de la commune Gitega, Dr Jacques Nduimana, demande à cet institut de mener des recherches approfondies en matière de domaine de la nutrition, car selon lui, ce domaine accuse beaucoup de lacunes. Il conseille à cet institut de collaborer étroitement avec plusieurs centres spécialisés en matière de nutrition, notamment le centre d'excellence sous-régional en sciences de la nutrition situé à l'hôpital Warale de Bujumbura.
La mission principale de ce centre d'excellence sous-régionale en sciences de la nutrition et de développer la recherche de haut niveau en sciences de la nutrition.
Quant à lui, l'archevêque émérite de l'archidiocèse de Gitega, Mgr Simon Hamwana, veut que cet institut mette fin à des envoûtements.
Il faut que nous démontrions que nous n'avons pas affaire à des envoûtements, à Marosi ou à d'autres phénomènes qui nuiraient à la santé des plus jeunes, sans nous préoccuper du voisin qui maltraiterait notre petit par des voies de nuisance invisibles ou non identifiables et porterait ainsi atteinte à la sécurité de la famille de l'enfant ou de son environnement. Nous voulons rassurer la mentalité des parents vis-à-vis de leur environnement.
Cet institut supérieur a ouvert ses portes avec 22 étudiants depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani.
La correction des disparités constatées au niveau du taux de réussite au concours donnant accès au poste fondamental, voilà l'objet de la réunion d'évaluation du premier trimestre dans la commune scolaire de Karuzi, tenue ce mardi. La directrice de l'éducation dans la province de Gitega a demandé aux éducateurs et parents d'élèves de travailler en synergie pour le développement de ce secteur. Gottfried Hakizimana demande en outre de doubler d'efforts pour que la majorité des lauréats des classes de 9e réussissent avec une note leur permettant d'être orientés dans des écoles à régime d'internat. Correspondance, Pascal Kararoumi.
Lors de cette réunion de ce mardi, comme l'a indiqué le responsable du département de l'éducation dans la commune scolaire de Karoussi, il s'agissait d'une réunion d'évaluation et d'analyse des résultats de l'examen communal de 9e année afin de s'ajuster par rapport aux activités du trimestre qui vient de commencer. Les résultats présentés par le chef de département montrent qu'il y a d'énormes écarts entre les écoles, étant donné que les premières écoles enregistrent un taux de réussite très élevé allant de 70 à 80%, mais aussi plusieurs écoles font remarquer que le taux de réussite est de 0%, que ce soit au niveau du classement des écoles, mais aussi au niveau des disciplines. L'administrateur communal de Karoussi, aussi présent dans cette réunion, a indiqué que ces écarts entre les écoles sont très importants et qu'il faut que même les écoles qui se classent les dernières puissent aller de l'avant pour que les résultats puissent être améliorés. La directrice provinciale de l'éducation de Gitega, qui a aussi réussi de sa présence à cette réunion d'évaluation tenue au chef-lieu de la commune Karoussi. Elle a indiqué que la circonscription scolaire de Karoussi a déjà une base solide pour permettre la promotion du secteur éducatif dans cette circonscription. Madame la directrice provinciale a demandé à tous les intervenants sur place, dont l'administrateur communal, les responsables de l'éducation de la commune, les responsables de l'éducation dans les zones, les directeurs et les enseignants, mais aussi les parents aussi présent, de mener un travail en synergie pour le développement du secteur éducatif de Karoussi. C'est ainsi qu'elle a aussi demandé de fournir plus d'efforts pour les enseignants et les élèves, mais aussi à contribution des parents pour que la majorité des élèves de 9e année de cette circonscription puissent avoir des résultats leur permettant d'être orientés dans des écoles à régime d'internat, mais pouvoir accéder ainsi à des filières souhaitées. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro.
En bref, en actualité internationale, 4 ans après la finale de la CAN 2022 remportée par le Sénégal, les Lions et les Pharaons se retrouvent à Tanger ce mercredi 14 janvier pour la première demi-finale de la CAN 2025. Le Sénégal, sûr de sa force et de son collectif, devra se méfier d'une Égypte qui a écarté les champions d'Afrique ivoiriens au terme d'un quart de finale qui a démontré le réalisme et l'efficacité des hommes de Hossam Hassan. L'autre demi-finale opposera le Nigeria au Maroc, pays organisateur. Et dernier jour de campagne avant la présidentielle et législative de ce jeudi 15 janvier en Ouganda, ce mardi a été marqué par la coupure de l'accès à Internet dans tout le pays. Lors du scrutin, Yoweri Museveni, le président sortant au pouvoir depuis 40 ans, brigue son 7e mandat consécutif. Il a pour principal adversaire Bobi Wine et face à l'inquiétude d'un possible blackout total, de nombreuses voix, notamment parmi les organisations de défense des droits de l'homme, se sont déjà fait entendre. L'Ouganda est donc coupé du monde jusqu'à nouvel ordre, comme pendant la présidentielle de 2021 durant laquelle le réseau avait été bloqué pendant plus de 5 jours. Le journaliste de RFI envoyé dans le pays pour couvrir les élections a été refoulé du pays malgré son accréditation officielle.
Parle, rassure-moi.
La chronique Parle, rassure-moi de ce mercredi est centrée sur les conséquences des discours visant à réduire au silence les voix critiques, des discours souvent utilisés par ceux qui détiennent le pouvoir. Pour les partis politiques prônant Eranak, ces discours visent l'intimidation et résultent de la peur de certaines autorités de voir la vérité éclater au grand jour. Ils confirment les témoignages des habitants de la commune Gitanga qui en ont fait l'expérience par le passé. Mireille Kanyang.
Ces discours ayant pour but de réduire au silence les voix critiques par les détenteurs du pouvoir ont existé dans le passé, ils sont toujours d'actualité et sont intimidants, disent Jeanne Nindorera, vice-président du parti Ranak, et Ernest Nahimana, porte-parole du parti Uprona. Ce genre de discours peuvent déboucher sur des violences de masse, préviennent ces formations politiques.
On ne peut pas rejeter ce que l'on a déjà dit. Quand on te réduit au silence, cela s'accumule à l'image de l'eau qu'on fait bouillir. Le couvercle finit par tomber. C'est là alors où on assiste à des violences par manque d'espace d'expression, soit on tente de renverser le pouvoir, soit de mouvements de grève.
On le voit dans différents pays, même ici au Burundi. Il y a eu des guerres dues à ce comportement. Si l'on se réfère aussi aux partis au pouvoir, pourquoi sont-ils allés au maquis? C'était parce qu'ils se sentaient réduits au silence et non accès à des services divers. Accéder au pouvoir, c'est une bonne chose, mais ce qui est important, c'est cet esprit, cette vision de changer la situation.
Ils appellent les détenteurs de pouvoir sur différents échelons à faire preuve de leader et laisser résonner les voix contraires à celles des dirigeants. Selon Gabriel Rufiri, expert en gouvernance, il faut privilégier le débat contradictoire, mettant en exergue toute idée constructrice.
Lorsque les gens n'ont jamais appris à débattre par des idées, ils optent pour ce discours de réduire l'autre au silence. Autre chose, cela dépend de la société. L'administration au Burundi en période monarchique est différente de l'avènement de la démocratie. On disait qu'un roi missait avec des semences, gare à celui qui disait le contraire. Et ce n'était pas vrai, c'était un problème. Dans notre société, un dirigeant ne veut pas l'idée contraire.
Cet expert estime que des séances de coaching des dirigeants et de pansement des blessures du passé soient organisées pour éradiquer ces discours visant à réduire au silence les voix critiques, discours utilisés par les détenteurs du pouvoir.
Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.